Voici les deux textes liturgiques pour ce quatrième dimanche de carême. Donc l'épître est tiré de saint Paul aux Galates. Mes frères, il est dit dans l'Écriture qu'Abraham eut deux fils, l'un de la servante, l'autre de la femme libre. Mais celui de la servante naquit selon les lois communes de la chair, tandis que celui de la femme libre naquit par l'effet de la promesse divine, ce qui renferme une réalité plus haute. Car nous avons là les deux alliances, celle du mont Sina, qui enfante pour la servitude, et celle, c'est Agar, Sina en effet est une montagne d'Arabie, en corrélation avec la Jérusalem actuelle, qui reste dans la servitude avec ses enfants. Tandis que la Jérusalem d'en haut, notre mère à nous, jouit de la liberté. Alors voilà ce que dit l'Écriture, réjouis-toi, stérile. Toi qui n'enfantes pas, fais éclater tes transports et pousse des cris de joie, toi qui ne connais pas les travaux de l'enfantement, car voici que les fils de la délaissée sont plus nombreux que les fils de celle qui avait le mari. Et c'est nous, frères, qui sommes les fils de la promesse comme Isaac. Il en est toutefois aujourd'hui, comme alors où c'était, où celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit. Mais aussi que prononce l'Écriture, chassez la servante et son fils, car le fils de la servante n'héritera pas avec le fils de la femme libre. Ainsi, frères, nous ne sommes pas fils de la servante, mais de la femme libre, liberté par laquelle le Christ est venu nous affranchir. On se lève pour l'Évangile. Continuation du Saint-Évangile selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée ou de Tibériade, et une grande multitude de gens le suivaient, voyant les signes qu'il opérait sur les malades. Après avoir gravi les pentes de la montagne, Jésus s'y tenait assis avec ses disciples. Or la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus donc, ayant levé les yeux, et vu qu'une très grande multitude était venue à lui, dit à Philippe, « D'où achèterons-nous des pains pour que ces gens-là mangent ?» Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il devait faire. Philippe lui répondit, « 200 deniers de pain ne leur suffiraient pas pour que chacun en ait tant soit peu. » L'un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit alors, « Il y a ici un enfant qui porte avec lui 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde ?» Ce quoi Jésus dit, « Faites asseoir ces gens. » Or le lieu était couvert d'une herbe abondante, et les hommes s'y assirent au nombre d'environ 5 000. Jésus prit donc les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même les 2 poissons autant qu'ils en voulurent. Et lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent pour qu'ils ne soient pas perdus. » Ils les ramassèrent donc et remplirent 12 corbeilles de ces morceaux. Reste des 5 pains d'orge laissés par les convives. Or ces gens, à la vue du signe que Jésus venait d'accomplir, se disaient, « C'est bien réellement le prophète qui doit venir dans le monde. » Mais Jésus, sachant qu'ils allaient venir pour l'enlever, le faire roi, se retira de nouveau précipitamment et tout seul sur la montagne. Veuillez vous asseoir. Alors voici quelques annonces pour cette semaine. Première chose, attention, j'ai changé l'heure des messes en semaine. Donc pas de changement pour le dimanche, ça reste à 10h, mais en semaine j'ai mis la messe à 11h. Ce sera pas un peu plus pratique pour certaines personnes aussi, pour l'organisation de la maison ici. Donc, messe tous les jours à 11h en semaine, 10h le dimanche. Cours ce mercredi sur les actes du magistère à 19h, comme tous les mercredis. Pour les retraites, il me reste quelques places, c'est presque plein maintenant. Donc, j'ai encore une place pour la première retraite d'avril. La retraite de mai est pleine. Retraite de juin est pleine. J'ai une place pour la retraite, première retraite de septembre. Deuxième retraite de septembre est pleine. Et j'ai encore 3 places pour la retraite d'octobre. Donc pour ceux qui m'écoutent sur Internet, beaucoup m'ont dit, « Monsieur Lebon, on voudrait venir à la retraite, mais si je n'ai pas les feuilles d'inscription, ne me dites pas quand vous voulez venir, je ne peux pas vous inscrire. » Donc demain, il y a 2 très grandes fêtes cette semaine. Demain, fête de Saint-Joseph, donc qui est reportée depuis aujourd'hui, messe à 11h. Et aussi la fête de l'Annonciation, qui est la plus grande fête de la Sainte Vierge, ce samedi à 11h. Alors, un petit avertissement avant le sermon. Je vais préparer un sermon pour vous aider un peu pour les confessions pascales. Alors, à chaque fois que je donne ce genre de sermon, il y a des gens qui se vexent en disant « La Belle Lafitte parle pour moi ». Je préviens que je parle pour tout le monde. Donc, les exemples que je donne sont des exemples généraux que j'ai le droit de donner. C'est des exemples qu'on nous donnait déjà au séminaire. Donc ne prenez pas ça mal. Non, l'abbé, il me regarde dans, il me regarde dans les yeux. Je regarde personne, j'essaie de regarder tout le monde. Donc ne prenez pas ça pour vous de façon personnelle. Alors, vous savez que l'Église demande, c'est ce qu'on appelle les commandements de l'Église. L'Église demande à ce que tous les catholiques se confessent et communient au moins une fois l'an. Bon, il est évident que c'est un minimum. Hein. Voilà le texte. Troisième commandement de l'Église, tout tes péchés confessera à tout le moins une fois l'an. Et le quatrième commandement de l'Église, ton Créateur, tu recevras au moins un Pâques humblement. C'est comme si je disais à quelqu'un, pour survivre, il faut au moins manger un pas par semaine. Bon, ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut manger qu'une fois par semaine. C'est la même chose avec la confession et la communion. D'où l'importance de ce temps pascal. Alors, qu'est-ce que c'est que le temps pascal pour la confession et la communion? D'après le droit canonique de l'Église, il est très court, 15 jours. C'est le temps qui va depuis le dimanche des Rameaux, une semaine avant Pâques, jusqu'au dimanche après Pâques, le dimanche de Quasimodo. Comme ce temps est très court, l'Église, dans la pratique, l'a profondément élargi pour faciliter justement l'usage de la confession pour tous les catholiques. Et les évêques en France avaient, la même chose pour tous les pays, avec certaines différences selon les pays, avaient en général augmenté considérablement le temps pendant lequel on pouvait faire ses Pâques, comme on disait. En France, dans la pratique, ceci est une vieille coutume, c'est bien avant Vatican II, c'était le temps depuis le dimanche de la Passion, c'est donc dimanche prochain, 15 jours avant Pâques, jusqu'au dimanche, premier dimanche après la Pentecôte, le dimanche de la Sainte Trinité, c'est-à-dire pratiquement 2 mois, pour faciliter justement l'usage de cette belle coutume de se confesser, de communier. Bon, ça a toujours été un gros, gros problème dans l'Église. Hein. Il faut voir ce qui est. Moi, quand j'ai vu ça très souvent comme prêtre, nous avions toujours beaucoup de monde pour Pâques. Et beaucoup de gens venaient une fois par an à la messe pour se confesser, communier. Et puis, une fois qu'ils avaient fait leur Pâques, comme ils disaient, on ne les voyait plus pendant un an. Bon, sauf dans un cercueil, s'il était mort entre-temps, et éventuellement pour un mariage. C'était terrible. On n'arrivait pas à changer ses coutumes. Bon. Les gens disaient, Monsieur l'abbé, moi j'ai fait mon obligation, on est obligé de la rappeler, attention, il y a aussi un autre commandement de l'Église qui nous rappelle qu'on doit assister à la messe tous les dimanches. Et alors c'est un peu compliqué justement à cause de cela, parce que la confession pascale, c'est quand même un peu triste de voir qu'on est obligé presque de pousser les gens à se confesser, parce que les gens ne comprennent pas ce qu'est la confession. Beaucoup de pères de l'Église disent que le passage d'une âme en état de péché mortel à une âme en état de grâce par une bonne confession apporte plus de gloire accidentelle à Dieu que la création du ciel et de la terre. C'est évident qu'une bonne confession ne peut pas augmenter la gloire substantielle de Dieu, parce que Dieu étant Dieu, ne peut pas augmenter sa gloire. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a une augmentation de la gloire accidentelle de Dieu. Vous voyez, il faut un petit peu comprendre, il faut méditer là-dessus pour vraiment réaliser qu'est-ce qui se passe dans la confession. C'est des choses que nous voyons de temps en temps, c'est assez rare. Moi, je l'ai vu plusieurs fois aux retraites. Quand on a des cas de personnes qui ne sont pas confessées pendant 10, 20, 30, 40 ans, qui avaient un peu perdu la foi, qui retrouvent la foi à la retraite. On fait la retraite des 5 jours de Saint-Ignace. Et puis le troisième jour, avec la grâce du bon Dieu, ils ont travaillé pendant 2 jours et demi sur leur confession générale. Ils font une confession générale profonde, avec une grande, grande contrition de tous leurs péchés. Et Dieu leur donne le retour de la foi catholique. C'est extraordinaire. Et j'ai vu des adultes communier pour la première fois depuis 30 ou 40 ans, les larmes aux yeux, vraiment comme des enfants qui font la première communion. C'est extraordinaire. Alors, essayez un petit peu de vous aider pour la confession. Vous savez que, je vais vous rappeler des choses que vous savez déjà, mais il faut rappeler un peu ces choses-là. Pour qu'une confession soit bonne, il faut que vous ameniez 3 choses avec vous au confessionnal. Ça, c'est votre travail. Vous devez apporter avec vous la contrition, l'accusation et la réparation. Alors là, il y a un problème. L'immense majorité de nos fidèles, même dans nos chapelles, est persuadée que le plus important, c'est l'accusation. Alors, ils préparent avec grand soin leur confession, ce qui est une bonne chose. Parfois, ils écrivent sur un papier, c'est très bien, c'est une bonne chose aussi. Mais dans leur esprit, c'est le plus important. Et ne comprennent pas que c'est pas ce qu'enseigne le catéchisme. Le plus important n'est pas l'accusation, mais la contrition. À tel point que l'Église catholique peut, dans certains cas, donner des dispenses des dispenses d'accusation, des dispenses de réparation, mais jamais une dispense de contrition. Ça arrive d'avoir des dispenses, on est obligé, en tant que prêtre, de donner des dispenses d'accusation. On avait entre autres ce problème dans les pays de mission, à cause des langues. Donc, quand j'étais aux îles Fidji, par exemple, ce sont des îles perdues dans le Pacifique, au nord de la Nouvelle-Zélande, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, des îles Fidji, à Suva, la capitale, ils parlaient à peu près anglais, mais alors dans les villages, c'était une catastrophe parce que on avait quelques missions dans les villages, mais alors ils parlaient des dialectes. Et donc, ils parlaient pratiquement pas l'anglais. Bon, les dialectes, ma connaissance des dialectes, dialectes de la région de Suva, c'est plutôt limité. Et on avait beaucoup de mal pour les confessions. On faisait ce qu'on pouvait. On avait le même problème dans le sud du Mexique. Dans la capitale, Mexico, les gens parlent espagnol. Bon, je parlais espagnol, il n'y a pas de problème. Mais dans le village du sud, la plupart des gens avaient peu de contact avec la civilisation et parlaient encore les langues aztèques, des langues très anciennes, qui ne sont pas des langues écrites. Alors les gens, les prêtres anciens qui restaient sur place pendant des années et des années avaient le temps d'apprendre les langues. Nous, on était missionnaires itinérants, on ne pouvait pas apprendre les langues. C'était pratiquement impossible pour les confessions à cause de ces dialectes et aussi du fait que, ben, évidemment, pour confesser les gens, on était obligé d'utiliser des interprètes. L'interprète, c'était quelqu'un du village, vous voyez, un peu de bazar. Bon, et il est évident que dans des cas comme ça, bon, ben, on faisait un peu ce qu'on pouvait. Ça arrive même dans les lieux modernes. Une fois, j'étais en train de courir dans l'aéroport de Mexico, je suis en train de rater mon avion, et puis il y a quelqu'un qui m'accroche par la soutane, il me dit, ah ben, je vais me confesser. Bon, c'était un Allemand. Bon, je lui dis, écoutez, j'essaie de lui faire comprendre que j'avais un avion, il fallait que ce soit un peu rapide. Et puis, moi, je ne parlais pas un mot d'allemand, très peu. Il baragouinait, bon, il parlait allemand, évidemment. Il baragouinait un petit peu l'anglais, mais quelques mots seulement. Bon, je l'ai confessé un peu comme j'ai pu. J'ai certainement pas tout compris. Dans ce cas-là, on donne des dispenses d'accusation. On peut donner des dispenses de réparation aussi, parce que parfois, les réparations ne sont pas possibles. Par exemple, pour les mourants. Les mourants. Bon, quelqu'un me dit, voilà, monsieur l'abbé, je veux faire une bonne confession avant de mourir et j'ai volé 20 000 euros. Bon, ben, sur un lit d'hôpital, il est en train de mourir, c'est peut-être pas le moment d'exiger qu'il fasse une réparation de 20 000 euros. Il n'a pas forcément ça sous son matelas. D'accord? Donc, dans certains cas, on est obligé, ben, de confier tout ça à la Providence en disant, ben, écoutez, ben, vous réparez quand vous pourrez, sans doute au purgatoire. D'accord? Et donc, c'est des choses importantes. Et les gens, j'ai remarqué, c'est très très fréquent, les gens ne pensent qu'à l'accusation et oublie complètement que le plus important, c'est la contrition. La contrition, qu'est-ce que c'est? La contrition, attention, il faut relire son catéchisme. La contrition, c'est deux choses. C'est pas simplement le regret de ses péchés. C'est le regret pratique des péchés. Ça suffit pas de regretter ses péchés. Il faut regretter, et le catéchisme enseigne, il faut le faire propos d'amendement. Ça veut dire quoi? Dire, je dois regretter mes péchés. L'Église explique que c'est la douleur d'avoir offensé Dieu, douleur interne, douleur surnaturelle, douleur universelle, douleur suprême. Un regret donc douloureux de ses péchés, j'ai offensé Dieu, mais ça ne suffit pas. Il faut ajouter à cette douleur le ferme propos de ne pas recommencer. Dire, de prendre les résolutions pratiques pour essayer de ne pas recommencer. Bon, ça demande d'éviter ce qu'on appelle les occasions prochaines volontaires de péché grave. Et si vous avez que la douleur, sans avoir le regret pratique, c'est-à-dire sans être décidé à changer les choses qui doivent être changées pour éviter de recommencer, votre confession est nulle. Alors attention, encore une fois, il faut distinguer les choses. Parce que quand je donne ce genre de serment, c'est toujours la même chose, les gens viennent me voir après la messe en pleurant, ah, monsieur l'abbé, toutes mes confessions sont invalides. Mais non, c'est pas ce que j'ai dit. Mais il faut comprendre ces choses-là. Vous confessez, Et vous dites au prêtre, mon Dieu, mon Père, je regrette de tout mon cœur mon péché, mes péchés, mais je les commets tout le temps. Il y en a un sur lequel je retombe tout le temps et je fais tous mes efforts et je retombe tout le temps. Est-ce que je peux me confesser? Mais bien sûr, monsieur l'abbé, je risque de retomber. Est-ce que vous avez actuellement, au moment où vous confessez, le désir sincère et de prendre les moyens pour ne pas recommencer? Oui, monsieur l'abbé, ego te absolvo, on absout. Autre cas. Personne ne me dit, monsieur l'abbé, je retombe tout le temps dans le même péché, j'en ai par-dessus la tête, alors je ne fais plus d'efforts. Je ne peux plus absoudre. Je ne peux plus absoudre. Parce que là, il n'y a plus le ferme propos. Ça s'appelle le ferme propos d'amendement. Je vous donne d'autres exemples. Encore une fois, c'est des exemples pour tout le monde. Mais c'est pour vous expliquer, parce que les gens ne savent pas très bien ces choses-là. Bon, imaginez quelqu'un, ça arrive fréquemment, surtout dans les grandes villes, imaginez quelqu'un qui a un groupe d'amis, et il sait très bien, c'est un jeune ou un moins jeune, enfin, vous comprenez ce que vous voulez, et qui va, il se retrouve avec ses copains, ses potes comme ils disent vulgairement, il se retrouve avec ses copains tous les vendredis soirs, et puis il y en a toujours un ou deux qui amènent évidemment deux, trois packs de bière, et puis ça commence à boire, on boit trop, hein, il y a une bière, deux bières, trois bières, cinq bières, dix bières, bon, on commence à boire. Et puis évidemment, dès qu'on a bu un coup de trop, on commence à assassiner l'âme du prochain, on commence à critiquer tous les gens qu'on connaît, on commence les médisances, les calomnies, les jugements téméraires, plus il y en a toujours un ou deux qui commencent à amener une poudre blanche un peu spéciale, et un petit peu de drogue, et puis après on va finir avec les flèches au bar du coin, et puis là il y a les filles qui s'en mêlent, enfin bref. Et c'est comme ça tous les vendredis soirs. Imaginez cette personne, encore une fois c'est un exemple, qui vient, qui s'accuse, mon père, je m'accuse de pécher contre la charité, de pécher contre la pureté, je m'accuse d'avoir trop bu, d'avoir utilisé un peu de drogue, parce que tous les vendredis soirs, je retrouve mes copains. Qu'est-ce qui manque? Il manque le ferme propos. Et là, le prêtre doit interroger et dire « Faites ça tous les vendredis ?»« Ben oui, monsieur l'abbé. Qu'est-ce que vous comptez faire vendredi prochain ?»« Bon, la même chose, pardi. »« Eh ben, je suis désolé, mais je ne peux pas vous donner l'absolution parce qu'il manque le ferme propos d'amendement. Il faut que vous évitiez ce qu'on appelle les occasions prochaines volontaires de péché grave. » Monsieur l'abbé, ça veut dire quoi ?»« Ben, ça veut dire quoi ? Que le vendredi, au lieu d'aller dans les bars, vous allez faire autre chose ?» Bon, sur là, vous devez mettre à genoux et dire un chapelet de réparation pour tous les péchés que vous avez commis tous les vendredis qui ont précédé. Ah, je ne peux pas faire ça. Alors, je ne peux pas vous donner l'absolution. Et même si le prêtre n'interroge pas, attention, même si le prêtre n'interroge pas parce qu'il vous connaît mal, qu'il connaît mal la situation, et que vous dites pas, vous n'avez pas le ferme propos d'amendement, c'est-à-dire le ferme propos de ne pas vous remettre dans une situation d'occasion prochaine volontaire de péché grave, votre absolution est nulle. Il faut rien. De toute façon, l'Église précise bien qu'il faut éviter les occasions prochaines volontaires de prêcher grave. Autre exemple. Un policier qui me dit, voilà, monsieur l'abbé, moi je suis policier et puis le vendredi soir c'est terrible parce que mes supérieurs m'envoient toujours monter la garde à la sortie des boîtes de nuit vers 2h du matin, parce que je travaille de nuit comme policier, et je l'avais dans les grandes villes, à 2h du matin, à la sortie des boîtes de nuit, c'est pas très folichon, ça je vais bien vous croire. Et je l'avais, j'ai des tentations terribles contre la pureté. J'ai essayé de demander à mes supérieurs de pouvoir faire autre chose, mais ils veulent absolument que je fasse ça, parce qu'il n'y a personne d'autre pour le faire. Est-ce que je donne l'absolution? Oui. Pourquoi? C'est une occasion prochaine, nécessaire. Le péché grave. Fait partie de son devoir d'État. Devoir d'État. Mais la personne qui me dit, voilà, monsieur l'abbé, moi j'ai des tentations terribles contre la pureté parce que pendant les périodes d'été, sur les plages de la Côte d'Azur et puis il y a des catastrophes qui se passent à cause des tenues vestimentaires, des manques de tenues vestimentaires. Est-ce que je peux donner l'absolution? Non. Non, s'il n'y a pas un regret profond, parce que là, c'est une occasion volontaire. Occasion nécessaire, on peut donner l'absolution, parce que le bon Dieu donne les grâces. Occasion volontaire, on ne peut pas donner les grâces. D'ailleurs, on ne peut pas donner l'absolution, parce qu'en fait, on tombe à ce moment-là dans ce qu'on appelle un péché de présomption. Vous voyez, donc il ne faut pas oublier ces choses-là, que L'absolution est une chose magnifique, le bon Dieu pardonne tous les péchés. À condition qu'on la regrette. Et à condition qu'on la regrette sincèrement. Donc ça ne suffit pas d'accuser ses péchés, ça ne suffit pas d'essayer de réparer autant que faire se peut, il faut aussi avoir la contrition, c'est-à-dire la douleur d'avoir offensé Dieu et le ferme propos d'amendement, le ferme propos d'éviter des occasions prochaines volontaires de péché grave. Et souvent quand les confessions sont invalides, hélas, en général c'est parce qu'on garde ces occasions prochaines volontaires de péché grave. Attention, encore une fois, ne tombez pas dans le scrupule, ce n'est pas ce que je vous demande. Mais on est obligé de faire attention. Autre exemple qu'on peut donner, on peut donner des centaines d'exemples comme ça. Voilà un jeune homme qui habite dans une grande ville, et puis tous les soirs, tous les jours, le matin, il part à sa fac ou à son école, ou à son université, là où il amène son devoir d'État, et puis il passe par une rue, il sait que dans cette rue, il y a des mauvaises affiches très, très, très lascives, très, très, très impures. Et à chaque fois qu'il passe devant, il a une tentation terrible contre la pureté à cause des affiches. Eh bien, il est obligé de prendre la rue suivante. Mais ça prend 30 secondes de plus, tant pis. Il est obligé de prendre la rue suivante. Et s'il continue de prendre cette rue, et puis tiens, les affiches ont disparu. On les a enlevées, de gracias. Il y a faute. Pourquoi? Parce qu'il a accepté de passer par la rue en pensant qu'il allait avoir les affiches. Donc, dans son intention, il y a déjà une offense à Dieu, vous voyez? Encore une fois, je ne vous donne pas tous ces exemples pour vous pousser au scrupule, pas du tout. Mais pour nous aider à comprendre la grandeur de ce qu'est la confession. Et je pense qu'en matière, dans cette matière-là, il y a deux grandes erreurs qu'il faut éviter aussi. La première, c'est une tentation de ce qu'on appelle le pélagianisme. Pélagianisme, c'est une hérésie des premiers siècles, qui consiste à dire que je suis capable, par mes propres forces, de regretter mes péchés, de façon surnaturelle. Pour regretter un péché mortel de façon surnaturelle, il faut une grâce surnaturelle qu'on appelle une grâce actuelle. Et Dieu seul peut la donner. Donc si j'estime que par mes propres forces, je suis capable de regretter mes fautes graves et d'aller me mettre à genoux au pied du confessionnal pour recevoir l'absolution du prêtre, c'est tomber dans le pélagianisme. Et même, l'Église va plus loin que ça. Si je dis, ah oui, mais au moins je peux commencer le travail, puis le bon Dieu va venir m'aider. C'est du semi-pélagianisme, c'est aussi condamné par l'Église, les deux. Parce que j'ai commis une faute grave, pour regretter surnaturellement cette faute grave, il faut une grâce du bon Dieu. Une grâce actuelle. Pour maintenir cette contrition et aller me mettre au pied du confessionnal, il faut une grâce du bon Dieu. Une grâce actuelle. Une fois qu'on a reçu l'absolution, on a de nouveau la grâce sanctifiante, la grâce habituelle. Mais on a besoin des grâces actuelles du bon Dieu pour aller jusqu'au confessionnal. Je compte trop sur mes forces. Je ne suis pas capable d'obtenir quoi que ce soit. Et la deuxième erreur, qui est encore bien plus grave, c'est l'erreur du panthéisme, où littéralement on se prend pour le bon Dieu et qu'on estime qu'on est capable de faire les choses par soi-même. C'est une variante du pélagianisme. Autre chose, pour ne rien oublier, je n'ai pas le temps de tout vous expliquer, parce que pour expliquer complètement la confession, il faudrait expliquer bien plus longtemps. Mais je ne veux pas non plus parler pendant des heures. Vous voyez, mais il faut comprendre. La confession, c'est magnifique, mais il faut être dispo. Il y a le devoir grave pour le prêtre de pardonner les péchés de tous les pécheurs proprement disposés. Celui qui n'a pas les dispositions nécessaires ne peut pas recevoir l'absolution. Et ça, c'est très important aujourd'hui, parce que qu'on le veuille ou non, eh bien, cher frère, on est contaminé par les idées modernes. Il n'y a pas très longtemps, une quinzaine de jours, ou trois semaines, peut-être un peu plus, j'ai vu un texte ahurissant de François à Rome. C'est pour vous montrer à quel point ils en sont. Où le pape de l'Église de Vatican II disait, un prêtre doit toujours, toujours, systématiquement absoudre au confessionnal. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je sais, en tant que prêtre, que la personne qui se confesse devant moi. Garde une occasion prochaine volontaire de péché grave, je suis obligé de l'absoudre. Alors que l'absolution est nulle, parce que ce sont les règles d'absolution. Ce ne sont pas mes règles propres. Ce sont des règles qu'on apprend au séminaire. Si je me confesse et que je garde une occasion prochaine volontaire de péché grave, je suis dans un péché grave de présomption, je joue avec le feu. Et si j'accuse ces fautes, mais que je garde une occasion prochaine volontaire de péché grave, c'est-à-dire que je n'ai pas le ferme propos d'amendement, même si le prêtre me donne l'absolution, l'absolution est nulle. Et on nous a enseigné au séminaire que si un prêtre sait que son confesseur, que son pénitent garde dans sa vie de tous les jours une occasion prochaine volontaire de péché grave, et que le prêtre néanmoins donne l'absolution, c'est le prêtre qui commet une faute grave. En plus, l'absolution est invalide. Donc le prêtre a le devoir, dans certains cas, d'interroger quand il se doute de quelque chose. J'ai eu des cas comme ça, je ne sais pas combien de fois. Et justement, surtout dans les paroisses, même parfois, hélas, de la tradition, mais des paroisses dans lesquelles les prêtres sont habitués à ne pas jamais interroger là-dessus. Et vous avez des personnes, c'est des exemples encore que je donne, la bouche en cœur qui allait vous dire, je m'accuse d'un péché d'impureté. Et puis j'ai menti, et puis, attendez. Péché d'impureté seul ou avec d'autres? Monsieur l'abbé, j'ai menti. Péché d'impureté seul ou avec d'autres? Les autres prêtres, ils interrogent jamais. Péché d'impureté seul ou avec d'autres? J'étais un peu aidé, oui. Puis on interroge, Vous vivez toute seule? J'aime pas beaucoup la solitude. Vous vivez toute seule? Non, je vais avec quelqu'un. Ben on va se marier. Quand? On verra, on finit nos études et on se marie. Donc les personnes sont en état de concubinage, ils vivent maritalement et ils vont se confesser. Mais c'est l'hypocrisie pure et simple. Dans un cas comme ça, si je donne l'absolution, l'absolution est nulle. Et le prêtre a le devoir d'interroger dès qu'il suspecte quelque chose. Parce qu'en fait, ces personnes gardent une occasion prochaine volontaire de péché grave. Ils restent dans le péché, ils ne veulent pas en sortir. Si la personne regrette son péché, le prêtre doit pardonner, c'est absolument évident. Mais attention, on ne se moque pas de Dieu on ne se moque pas. Deux autres choses qui me semblent aussi importantes, c'est qu'il y a certains péchés qui sont difficiles à dire. Pour des raisons de honte personnelle, par exemple. Il y a des péchés qui sont difficiles à dire, il faut bien reconnaître ce qui est. Et ces péchés qui sont difficiles à dire sont différents selon les personnes. Il y a certains péchés qui sont très difficiles à dire pour une jeune femme ou une femme, et des péchés qui sont plus difficiles à dire pour un homme. N'hésitez pas à le dire au prêtre. Monsieur l'abbé, j'ai besoin d'un coup de main. Ça veut dire, monsieur l'abbé, j'en ai un gros, mais je ne sais pas comment le sortir. Je regarde les gens droit dans les yeux, vous avez fait ça. Oh, comment vous savez? Parce que ça fait 43 ans que je suis prêtre, pardi. On devine tout de suite. Parce que je connais le péché qui est tellement difficile à dire pour un homme. Pour les femmes, c'est plus compliqué, parce que les femmes, c'est la complication de l'homme, comme on dit. Alors, avec les femmes, c'est plus compliqué d'arriver à deviner. Mais on y arrive aussi, parfois, il faut interroger. D'où l'obligation d'interroger. Vous voyez ? Toutes ces choses, mes bien chers frères, sont très importantes. Enfin, dernière chose sur laquelle je voudrais insister, c'est le secret de confession. On ne comprend pas ce que c'est que le secret de confession. Le secret de confession est tellement, tellement clair, tellement absolu, qu'il n'y a jamais, jamais, jamais de dispense possible pour un secret de confession. Et un prêtre qui manquerait au secret de confession est immédiatement excommunié. Une excommunication réservée au pape. Bon courage pour s'en faire relever aujourd'hui. Donc, le secret de confession est absolu. Même si je suis seul avec vous dans mon bureau, et que je souhaiterais compléter une chose que je vous ai dite au confessionnal, je suis d'abord obligé, tenu, de vous demander l'autorisation. Je souhaiterais vous parler de votre confession. Me donnez-vous, puisque je suis seul avec vous dans mon bureau, me donnez-vous l'autorisation d'en parler. On n'a jamais, jamais le droit, même seul avec la personne, de parler de la confession sans l'accord de la personne. Il y a des cas douloureux. Douloureux pendant les guerres, par exemple. De personnes qui pouvaient savoir, de prêtres, des aumôniers militaires, qui par la confession savaient des choses, évidemment, parfois des secrets militaires. et qu'ils avaient entendu qu'au confessionnal. Et ils ne pouvaient rien dire, pas dire un mot, même pour sauver des vies humaines. Il y a l'exemple malheureux sous le pape Pie XII. Sous le pape Pie XII, lorsque la Russie bolchevique de l'époque avait essayé d'envoyer au séminaire, dans les séminaires italiens, entre autres à Rome, des communistes pour qu'ils se fassent ordonner prêtres et qu'ils puissent essayer de détruire l'église de l'intérieur. Et beaucoup de ces communistes suivaient tout le cursus pour devenir prêtres. Et juste avant l'ordination sacerdotale, ils allaient voir leur confesseur pour la confession l'ordination sacerdotale. Et au confessionnal, il disait au confesseur, « Je veux que vous sachiez que je suis communiste et j'ai été envoyé ici, dans ce séminaire, pour devenir prêtre et après détruire l'église de l'intérieur. » Le confesseur ne pouvait rien dire. Rien. Secret de confession. Vous savez, même pour sauver une vie humaine. Et donc, attention, n'ayez pas peur, parce que souvent, ça arrive avec les jeunes filles ou les femmes, Monsieur l'abbé, si je vous dis ce que j'ai fait, vous allez m'en vouloir. Non. Monsieur l'abbé, si je vous dis ce que j'ai fait, vous allez me regarder de travers. Non. Monsieur l'abbé, si je vous dis ce que j'ai fait, vous allez au fond de vous-même penser que rien du tout. Parce qu'on a des grands états. Ça, c'est des choses que les fidèles ont mal fou à comprendre. Une fois que vous sortez du confessionnal, c'est comme un tableau qu'on efface. On prend un chiffon, on efface. Il n'y a plus rien. Parfois, ça arrive. Monsieur l'abbé, vous rappelez ce que je viens de vous dire? Pardon, qu'est-ce que vous venez de dire? Vous venez de me confesser, vous rappelez ce que je dis? Non. Non, je ne me rappelle pas. Parce qu'on a des grâces d'État pour oublier tout ce qu'on nous dit. S'il fallait que je me rappelle tous les péchés que j'ai entendus en 43 ans, mais je serais fou depuis longtemps. On a des grâces d'État pour ça, mes bien chers frères. Donc, il ne faut pas avoir peur. Monsieur l'abbé, si je retourne vers vous, vous allez me regarder de travers. Non. Je n'ai même pas le droit de vous regarder de travers. Et c'est, y a des conséquences énormes de ce que je vous dis. Par exemple, la jeune fille qui vient me voir, Monsieur l'abbé, je voudrais épouser tel jeune homme. Ah bon? Monsieur l'abbé, qu'est-ce qu'il vaut? Je sais que c'est un bandit. Bon, il se drogue, je parle pour tout le monde, évidemment, on ne commence pas à venir voir, la fille pas pour moi. Je parle pour tout le monde, il se drogue, il fait des tas de trucs, mais je ne sais pas le confessionnal. Et extérieurement, je pense que c'est un bon gars. Eh bien, je suis obligé de dire à la jeune fille, écoutez, je pense que c'est un bon gars. Mais je rajoute toujours, cependant, vérifiez un peu par vous-même. C'est tout ce que je peux dire. Je ne peux rien dire d'autre. Parce qu'il y a eu des cas où des jeunes filles sont venues me voir, mariées, me disant, monsieur l'abbé, vous m'avez dit que c'était un bon gars. Ben oui, je pensais que c'était un bon gars. Et alors, monsieur l'abbé, c'est un bandit. Vous avez pu me prévenir parce qu'il m'a dit que vous étiez au courant par la confession. Si je suis au courant par la confession, je n'ai pas le droit de dire un mot. Mais monsieur l'abbé, pour sauver mon ménage, même pour sauver votre ménage, je n'ai pas le droit de dire un mot. Secret de confession absolue. Bon, on pourrait donner des exemples comme ça pendant des heures et des heures. Hein. Encore une fois, vous voyez, ceci doit nous donner la vertu d'espérance de façon extraordinaire. Le bon Dieu, dans sa miséricorde, permet justement que nous puissions nous confesser. Et rappelez-vous ce qu'il a dit à Saint-Pierre. Quand il a commencé à expliquer tout ça à Saint-Pierre et aux apôtres, Saint-Pierre n'a rien compris au début. Et puis il dit, bon Dieu, mais alors il faut que je pardonne? Ben oui, combien de fois? Une fois? Sept fois? Non. 70 fois, sept fois, dit notre Seigneur. 70 fois, sept fois, c'est-à-dire toujours. Toujours. C'est pour ça que les portes du confessionnal sont toujours ouvertes. Et vous pouvez venir vous confesser n'importe quand. N'importe quand. Vous avez passé un coup de téléphone, alors, sur que je suis né, je suis là, évidemment, et puis monsieur l'abbé, est-ce que je peux me confesser? Je confesserai. Parce que c'est le propre du prêtre. Le prêtre est d'abord l'homme du pardon. Je vais peut-être vous étonner, vous scandaliser, mais je me sens parfois plus prêtre au confessionnal qu'à l'autel. Parce que peut-être qu'on touche encore plus, nous prêtres, on touche la miséricorde du bon Dieu, peut-être de façon plus expressive, quand on donne l'absolution à quelqu'un qui ne s'est pas confessé depuis 15 ans, que quand on change le pain et le vin au corps et au sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors si vous avez un petit peu de difficulté avec vos confessions, parce que ce n'est pas toujours facile de se confesser, passez par la Sainte Vierge. Passez par la Sainte Vierge, elle est mère de Dieu, elle sait ce qu'elle fait. Et la très Sainte Vierge Marie vous aidera justement à préparer votre âme pour que vous puissiez justement vous confesser correctement. Faites toujours une petite prière à la Sainte Vierge avant de vous confesser. Elle vous aidera parce qu'elle est mère de Dieu. Elle est mère du prêtre. Elle est mère de l'Église. Et elle est au confessionnal parce qu'on ne peut pas séparer son fils d'elle. Et donc, quand le prêtre donne l'absolution à la Sainte Vierge Marie juste à côté, passez par elle. Et ne vous découragez jamais, jamais, jamais. Quel que soit ce que vous avez fait. Même si vous avez lancé une bombe atomique pour écrabouiller tout le gouvernement, ce que je peux comprendre, c'est pas ce que je déconseille quand même, eh bien, venez voir, monsieur l'abbé, j'ai lancé une bombe atomique et j'ai écrabouillé tout le gouvernement. Bon, je donnerai l'absolution. Relativement facilement, d'ailleurs. Bon, je vous conseillerais de ne pas le refaire. Bon, mais je vous donnerai l'absolution. Du moment que vous regrettez. Il faut regretter, évidemment. Et ce n'est pas toujours facile, hein. Attention, parce qu'une fois que le péché est fait, c'est pas forcément évident d'avoir la contrition. La contrition. Entre autres, c'est la grosse, grosse difficulté pour les avortements. Hein, vous savez, j'ai tué mon enfant, mais il n'est plus là. Donc il faut passer par la Sainte Vierge pour que la très Sainte Vierge Marie, n'oubliez pas qu'elle est médiatrice de toutes les grâces. La très Sainte Vierge Marie étant médiatrice de toutes les grâces, c'est elle qui va obtenir pour chacun d'entre nous, c'est voilà pour moi aussi, le véritable remords de conscience pratique. Rappelez-vous, la douleur et le ferme propos. Après l'accusation, c'est relativement facile. Alors, passez par la très Sainte Vierge Marie, demandez-lui de vous aider à comprendre toutes ces choses. Ne soyez pas énervé avec moi parce que je vous ai donné tous ces exemples. Encore une fois, je parle pour tout le monde. Et qu'au contraire, justement, cette beauté de la doctrine de l'Église, justement, nous aide à comprendre tout cela. Monseigneur Lefebvre nous disait tout le temps en séminaire, le crime de Vatican II, c'est d'avoir détruit la miséricorde. Le crime de Vatican II, nous disait-il, c'est d'avoir détruit le don de crainte de Dieu. Craindre d'offenser Dieu. Vous voyez ? Les prêtres modernes, ils sont comme ça. Ils donnent l'absolution pour n'importe quoi. Ils n'exigent rien. Ils n'exigent aucun changement. Même s'il y a des occasions prochaines volontaires de péché grave, c'est pas grave, on absout. Ils détruisent la crainte de Dieu. Et comme la crainte de Dieu est le début de la sagesse, détruisant la crainte de Dieu, ils détruisent la sagesse. Alors, passez par la Sainte Vierge. Demandez à notre Sainte Vierge Marie qu'elle vous aide, qu'elle vous éclaire dans toutes ces choses. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Amen.